BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour BFM Patrimoine, 2 heures d'expertise quotidienne pour que vous puissiez gérer au mieux votre argent. 2 heures qui commencent par une virée sur les marchés pour prendre le pouls de la première heure de cotation. Et Antoine Larigauderie, on a l'impression que tout le monde s'organise pour essayer de rallier le niveau de clôture d'hier soir et de s'éloigner des plus bas de la journée touchés dans les premiers échanges.
Ouais, vous avez senti la même chose hein, aussi. C'est vrai qu'il y avait énormément de pression en tout début de séance. Et puis au fur et à mesure, ben, on limite les dégâts, on limite la casse. Et on a vu un peu se rapprocher les 6009 points qui constituent nos derniers plus bas hein, de ces derniers jours d'un peu trop près. Et donc effectivement, on a un CAC 40 qui remonte la pente, qui ne perd plus que 0,46%. On est à 6076 points. On reste en orbite de ces 6100 points qui pour l'instant tiennent bien le coup. C'est vrai que la semaine dernière, déjà, on avait eu une grosse consolidation qui menaçait d'être particulièrement sévère et qui finalement avait été relativement limitée, justement grâce à cet axe de gravitation des 6100 points. Du côté des autres places européennes, moins 0,5 pour l'Eurostock 50 et moins 0,66 pour le DAX à Francfort. Alors on arrive à résister à une pression qui reste quand même considérable autour des changes. On a un dollar qui devient archi-puissant, surpuissant. On a une parité euro-dollar alors qui ne bouge pas trop puisqu'on est du côté des 0,99, mais ce matin on a eu des pointes à la baisse à 0,98. On a eu des plus hauts de 25 ans du dollar par rapport au yen qui a touché les 143-144. Enfin, c'était assez phénoménal. Toutes les devises asiatiques se sont effondrées face au dollar. Les cryptos aussi qui souffrent très très largement de ce taux de change euro-dollar qui leur est défavorable. On descend du côté des 18 000 hein, pour le bitcoin en particulier. Et donc, du coup, ce dollar roi il commence vraiment à inquiéter, surtout à la veille évidemment d'une décision de la BCE. Ça, c'est toujours un rendez-vous très compliqué à aborder, surtout ces derniers temps. Alors, ce qui nous aide un petit peu du côté des marchés, c'est que la pression obligataire se réduit un tout petit peu. 2,2% pour la dette française, 10 ans, 1,59 pour la dette allemande, 3,32 quand même pour la dette américaine. Là, ça commence à être lourd et ça explique aussi cette force du dollar. C'est la rémunération taux, évidemment, qui joue. On a également une baisse de la pression du côté du pétrole. 91,80 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord. Alors ça, on sait que c'est un faux ami des marchés hein, parce que globalement, ça matérialise au final le contexte de récession et pourquoi pas de déflation qui nous attend à la fin de l'année, hein, ce pétrole qui baisse. On a vu aussi l'ensemble des matières premières minières énergétiques baisser ce matin sur les marchés asiatiques et ça a accru justement cet environnement récessif. Le CAC 40 donc en baisse de 0,42%. Alors les principales baisses du moment, il y a plusieurs secteurs qui pèsent. Déjà le secteur de l'énergie avec cette baisse des cours du brut. Total Energy perd encore 1,5% à 50,91 €. On a les valeurs cycliques aussi qui sont atteintes. ArcelorMittal encore en baisse de 2,9% à 22,05 €. Puis cette légère baisse de la pression obligataire, ça provoque un retour de balancier sur les valeurs bancaires. On a un tiers groupé, Société Générale moins 1,2% à 22,39 €. Crédit Agricole moins 0,9 à 9,02 € et BNP Paribas moins 0,6 à 46,07 €. Et puis on a pas mal de valeurs qui se sont bien retournées à la hausse. Alors Safran qui gagne 2,08% à 103,24 €, c'est le leader du CAC 40 depuis le tout début de la séance. Mais on a aussi Engie plus 0,73 à 12,21 €, Renault plus 0,6 à 28,51 €, Air Liquide plus 0,33 à 122,06 €. On fait du stock picking, là on recherche certains dossiers dans le contexte un petit peu fluctuant là, à l'heure actuelle. On a aussi les équipementiers auto bien orientés, plus de 25 pour Forcia à 13,86 € et Valeo plus 1,25 €, 18,21 €. Le CAC moins 0,25 €, hein, on réduit vraiment les pertes, 6089 points. On est sans doute à l'aube d'un petit retournement de marché, pas impossible qu'on soit dans le vert tout à l'heure. L'euro 0,9926 face au billet vert.
Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à la Défense.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et c'est Pierrick Bochet que l'on retrouve. Bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Directeur général d'InnoCap Gestion, merci de nous répondre ce matin. L'éclairage que vous nous proposez se porte sur Prodways.
Prodways, spécialiste de l'impression 3D. Alors ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions. Prodways est une ETI française innovante, très internationale, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 71 millions d'euros, dont 80% en dehors de France. Son premier marché, ce sont les États-Unis, 30% de ses ventes. Alors, Prodways maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D, les imprimantes, les matières, les logiciels et la production de pièces pour ses clients. Ce marché de la fabrication additive est en forte croissance et pourrait atteindre une taille globale estimée à 100 milliards d'euros à horizon 2029 contre 10 milliards d'euros en 2020. Pour rappel, nous sommes actionnaires de Prodways au sein de notre gamme de fonds Quadrige et nous avions déjà échangé ensemble sur Prodways en octobre 2021, il y a bientôt un an. Les 12 derniers mois se sont révélés très instructifs au niveau des développements de Prodways et des enjeux de l'industrie mondiale de l'impression 3D. Nous assistons depuis cet été à une orientation structurante au niveau de cette industrie, la reprise des acquisitions par les grands leaders américains. Au mois d'août, les deux acteurs leaders du marché aux États-Unis, 3D Systems et Stratasys, ont repris leurs acquisitions, mais en ciblant cette fois de nouvelles niches de marché de l'impression 3D, les applications médicales. Stratasys arraché l'activité de matériaux de fabrication additive de Covestro et 3D Systems annonce l'acquisition de DB Polar pour se concentrer sur l'impression des applications de production de masse. La semaine dernière, c'est très récent, Nikon surprend en annonçant le rachat de la société allemande cotée SLM Solutions, spécialiste de l'impression 3D à base de technologie métal, sur la base d'un multiple de vente 2022 de plus de 5 fois, matérialisant une prime de 75%. Alors ces deux acquisitions réalisées aux États-Unis mettent en lumière l'attractivité des applications médicales. Il s'agit du cœur du positionnement et du savoir-faire de Prodways. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Prodways s'est concentré sur la production industrielle de masse, sur une matière, le plastique, et sur les applications médicales, puisque sa technologie très différenciante, qui offre des performances supérieures aux standards du marché en termes de précision et de rapidité, sa technologie y est très adaptée. Si l'on prend l'exemple des gouttières orthodontiques transparentes pour le réalignement des dents, qui représente la plus grosse application du marché de l'impression 3D dans le monde. Prodways, en quelques années, en est devenu le leader en Europe grâce à sa technologie différenciante. Son savoir-faire dans la certification des résines médicales, ses parts de marché se sont développées très significativement. Alors le médical, qui représente justement plus de 50% des ventes de Prodways, s'articule autour de trois applications, le dentaire, je l'évoquais, l'audiologie et la podologie. Mais au-delà de ce positionnement qui est tout à fait unique sur les applications médicales, Prodways a su développer une forte récurrence de ses ventes au cours des dernières années. Grâce à la vente de poudre, les revenus récurrents sont passés de 25% en 2015 à plus de 60% en 2021. Sa rentabilité s'est fortement améliorée au cours des trois dernières années. Elle est passée de 7% au S1 2019 à 13% en 2021 et à un niveau qui pourrait être sensiblement supérieur attendu par le management en 2022. Prodways bénéficie de l'une des rentabilités les plus élevées de son industrie, reflet d'un management visionnaire, d'une très grande qualité à l'exécution remarquable. Alors ce positionnement unique, sa rentabilité très forte, font de Prodways une cible attractive dans une industrie en pleine consolidation.
Qu'est-ce qu'on peut penser du parcours du titre, de la valorisation de l'action?
Alors aujourd'hui, la valorisation nous semble modérée, on est à deux fois les ventes. On évoquait Nikon qui rachète SLM Solutions sur une base de 5 fois le chiffre d'affaires. La Prodways cote aujourd'hui sur une valorisation à estimer environ 2 fois les ventes. Et si l'on regarde le chemin parcouru, l'introduction en bourse a eu lieu en octobre 2017 sur un cours de 5,65 €. Octobre 2017, septembre 2022, 5 ans séparés de date. En 5 ans, Prodways s'est structuré, s'est transformé. On voit la photo. Plus de 70 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, leader sur une niche de marché, 15% estimé cette année de rentabilité opérationnelle, 60% de chiffre d'affaires récurrent et le cours est 45% plus bas que sous son prix d'IPO. On a l'impression que la valorisation aujourd'hui est modérée, très modérée, et ne reflète pas la grande qualité, la forte structuration et la rentabilité de Prodways.
3,04 € ce matin en baisse d'1,14%. Merci beaucoup Pierrick pour cet éclairage donc sur Prodways. Et puis si on regarde les analystes qui suivent cette valeur, eh bien ils ont une opinion d'achat et il vise un objectif de cours de 3,95 €. Voilà donc pour ce dossier du jour. Prodways mis en lumière depuis InnoCap Gestion par son directeur général, Pierrick Bauchet. Le CAC 40 lui perd 0,26%, 6088 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et on retrouve Yvan Mamallet. Bonjour Yvan. En duplex avec nous depuis la Société Générale CIB. Vous nous entendez, Yvan?
Oui, très bien.
Bon, et ben parfait, nickel, nous aussi. On a tous les yeux rivés vers la Banque Centrale Européenne parce que toutes les statistiques d'inflation sont là. On a eu le bel enthousiasme, on va dire, de tous nos grands banquiers centraux à Jackson Hole pour nous dire qu'ils allaient tordre le cou à l'inflation. Et on va vers une hausse a priori donc de 75 points de base. C'est quasi inédit pour la Banque Centrale Européenne. Comment vous voyez tout ça et quel impact ça va avoir sur l'économie américaine? Parce que si les grandes banques centrales semblent d'accord, l'état de santé des économies de part et d'autre de l'Atlantique n'est presque en rien comparable, non?
Oui, alors effectivement. Déjà, sur la Banque Centrale, il me semble qu'il y a toujours une incertitude entre 50 et 75 points de base. Et sachant que, en fait, le meeting précédent, la réunion du mois de juillet, les membres de la BCE nous avaient promis une hausse de 25 points de base, ils ont fait 50. Donc, on peut voir que les messages d'avant réunion peuvent toujours changer. L'action peut changer au moment de la réunion. Quand on regarde l'état des forces au sein de la BCE, on a les gouverneurs des pays d'Europe de l'Est qui ont des chiffres d'inflation, des données d'inflation à deux chiffres, l'Allemagne, l'Autriche notamment, qui sont plutôt en faveur de 75 points de base. Après, vous avez effectivement les pays du Sud, la France possiblement, qui serait plutôt en faveur de 50 points de base, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE également. Et donc, dans ce contexte, une certaine incertitude, mais pas d'incertitude sur le fait que ça sera une hausse marquée. Pour nous, ça sera 75 points de base, chiffre d'inflation. On a 9 pays sur 19 qui ont une inflation à deux chiffres, une inflation qui va vraisemblablement continuer à augmenter proche de 10% en septembre, et je pense que le plus important, c'est une inflation sous-jacente qui est supérieure à 4%. Donc, pour ces raisons-là, 75 points de base, en fait, ça fait des arguments assez sérieux. Après, je pense qu'il faut aussi voir que 75 points de base est probablement déjà anticipé, déjà pricé dans les marchés. Donc, c'est assez peu coûteux pour la BCE de le faire. Et je pense qu'à l'inverse, s'il ne le faisait pas, il y aurait probablement de la déception et ça pourrait être coûteux, notamment pour l'euro, surtout si la Fed remonte les taux de 75 points de base une dizaine de jours plus tard.
Bon, il y a effectivement cette banque centrale qu'on va suivre cette semaine. Il y a l'état de santé de l'économie européenne, mais il y a aussi une question de crédibilité. Qu'est-ce qui se passe si la banque assume qu'elle met 75 points de base sur la table et que derrière, dans les heures qui suivent, l'euro poursuit sa glissade?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, il faut voir que l'euro qui baisse, c'est pas uniquement l'euro qui baisse face au dollar, c'est toutes les devises qui baissent face au dollar. Donc, il y a une appréciation du dollar. Sur la crédibilité de la BCE, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à regarder. Il y a un facteur qui est important, qui est que la BCE augmente ses taux, mais dans le même temps, elle maintient le montant de ses achats de titres, enfin de ses détentions de titres, notamment d'emprunts d'État. Donc, ce qui voit bien là qu'il y a un problème de politique monétaire. À la fois, on resserre la politique monétaire, on enlève les liquidités et dans le même temps, on essaie de continuer à fournir les liquidités, notamment à certains États membres. Donc, c'est là où il y a un problème, effectivement, de crédibilité. Je pense que si la BCE fait 75 points de base, c'est effectivement pour essayer de récupérer un peu de cette crédibilité. Et enfin, le dernier point sur la crédibilité que je voudrais quand même aussi mentionner, c'est quand on regarde les anticipations d'inflation à moyen long terme, elles n'ont pas augmenté de façon très très forte. Ce qui veut bien dire que les économistes, les agents économiques dans leur ensemble continuent à croire en la BCE et à penser qu'elle est sérieuse et qu'elle est déterminée à faire en sorte que l'inflation revienne à terme vers 2%.
Voilà donc quelques éléments à avoir en tête quelques heures maintenant avant cette réunion de la Banque Centrale Européenne. On comprend bien que le consensus est encore un peu en train de chercher entre 50 et 75 points de base. Merci beaucoup Yvan. Yvan Mamallet donc en duplex avec nous depuis la Société Générale CIB. Un petit coup d'œil sur le marché, moins 0,28 pour le CAC 6086 points, l'euro à 99,24.
Votre rendez-vous avec Otari. Solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le Club IMO qui, comme tous les mercredis, réunit les journalistes spécialistes du secteur qui viennent partager avec vous leurs observations sur l'actualité immobilière et du bâtiment. Et on retrouve ce matin Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
Gaël Thomas. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Pour Business IMO. Et Eric Tréguier pour Challenge. Bonjour Eric.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là ce matin. On commence par... On était en pleine macroéconomie en parlant Banque Centrale Européenne. Inévitablement, une remontée de taux, surtout si elle atteignait 75 points de base, eh bien, ça va avoir un impact sur les taux. Comment est-ce qu'on regarde les choses? C'est quand même un des gros points noirs du marché, Eric.
Là, je crois qu'il va falloir se résoudre à l'accepter. On est en train d'assister à une énorme montée.
Au revoir les taux bas.
On a un gouverneur de la Banque de France qui nous a dit qu'il fallait s'attendre à le 2 était généralisé, le 2% était généralisé. Il fallait peut-être s'attendre à du 3. Je crois que là, les marqueurs sont mis et on sait où on va et on constate qu'on y va doucement. Là aujourd'hui, quand on regarde. Quasiment sur 12 ou 13 ou 14 mois, disons, on a pris un point. On a pris un point sur un crédit. Et aujourd'hui, quand on veut emprunter, on emprunte à 1,5% sur 15 ans, à 1,75% sur 20 ans, à 1,90% sur 25 ans, quand on a des très bons dossiers. Quand on a des dossiers un petit peu moins bons, on est à du plus que 2%. Pour les durées supérieures à 20 ans. Donc, on voit qu'à la fois, les banques sont rétives à se mettre en danger avec les dossiers. Donc, il y a un goulet d'étranglement déjà de ce côté-là. Et puis, à côté de ça, le pauvre emprunteur, lui, se retrouve avec des mensualités qui vont fortement augmenter. Alors, effectivement, à côté de ça, on a tout un arsenal qui permet de faire baisser le coût du crédit, c'est-à-dire la possibilité d'aller chercher de l'assurance emprunteur ailleurs. Mais tout ça, c'est des sortes de sparadrap sur une montée inexorable des taux des crédits qui va se terminer, on ne sait pas comment, mais on sait que jeudi, donc demain, la BCE va en remettre un coup et on va se retrouver avec une hausse. Il y a des grilles qui sont en hausse partout. Toutes les banques montent leurs grilles depuis à peu près une quinzaine de jours. Il y en a juste une qui a baissé, une banque nationale qui a baissé sa grille, mais un tout petit peu.
Non, mais alors, il faut bien voir en plus que ce que vous voyez comme remontée, elle peut paraître relativement faible parce que on parle des taux qui sont réellement pratiqués avec des gens qui empruntent réellement. Mais la réalité des faits, on en a beaucoup parlé, c'est qu'avec le taux de l'usure, les banques, si elles veulent continuer à prêter, elles sont bien obligées d'amoindrir la hausse qu'elles aimeraient appliquer sur les taux d'intérêt. Par ailleurs, vous avez des banques qui volontairement, et on en avait déjà parlé, pour ne pas avoir à prêter. Et donc, pour se dire je vais systématiquement dépasser le taux de l'usure quand je vais proposer des taux pareils, elles proposent des taux volontairement prohibitifs. Là, il y a une banque mutualiste qui propose des taux à 2,35%, quel que soit votre profil d'emprunteur, quelle que soit la durée du crédit. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a personne qui va pouvoir passer le taux de l'usure si j'ajoute l'assurance de prêt et les frais de dossier qui vont avec. Donc, ce qu'on voit là, effectivement, cette remontée qui peut d'ores et déjà paraître être un poids supplémentaire pour les emprunteurs, et effectivement, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que plus le taux de l'usure va augmenter et donc permettre aux banques d'appliquer réellement la hausse qu'elles voudraient elles vont monter. Après... Pour relativiser quand même, on rappelle le niveau de l'inflation qu'on a aujourd'hui. Même si on est à 3%...
Oui, parce qu'il y a le taux facial, mais il y a le taux réel aussi.
Oui, et c'est ça. C'est qu'en fait, en réalité, on est toujours à taux réel négatif et largement négatif. C'est Crédit Logement CSA qui publiait hier et qui rappelait que la situation d'aujourd'hui, on ne l'avait pas connue depuis les années 50.
Oui, en même temps, un point de taux sur un crédit, ça donne des mensualités qui augmentent fortement.
Non, bien sûr.
Fortement.
Après, il va falloir...
Donc la capacité de financement qui...
Oui. Alors mais après, oui. Mais moi, c'est mon éternel optimisme par rapport à Eric, qui est toujours très triste et très négatif.
Non,
c'est que
vrai.
Moi, j'ose croire que cette hausse du coût du crédit va s'accompagner d'une baisse du prix de l'immobilier. Alors, c'est pas tout de suite,
ouais, c'est ça.
Mais ça commence
partout,
à s'engager.
Hein.
Mais on pourra en parler. Il y a eu des prévisions qui ont été faites par Meilleurs Agents et ils prévoient d'ores et déjà quelques baisses de prix dans les très très grandes villes très très chères dans les 12 mois qui viennent. Donc, clairement...
Attendez Marie, là, vous êtes en train de me dire que vous êtes réjouie que plus de la moitié des Français voient leur patrimoine baisser en valeur, parce que c'est exactement ce
non,
que vous êtes en train de
réjouis,
dire.
Je me réjouis, je me réjouis que les Français
puissent pouvoir acheter.
Après,
généralement,
ça fera moins difficile pour l'État, dommage.
L'immobilier, c'est des temps longs, Eric. C'est rarement des gens qui ont acheté il y a deux ans.
Aujourd'hui, les primo-accédants représentent une fraction seulement des transactions. Ce sont les secondos, des gens qui vendent avant de racheter. Et donc, s'ils vendent moins cher, ils rachèteront moins cher peut-être.
Bah mais c'est une histoire de vase communicant.
Dans cette histoire, quelqu'un perdra.
Et forcément. Attention, on ne parle pas d'une baisse de prix considérable. On n'est pas sur un effondrement de la valeur des biens de l'immobilier.
On pourra en reparler.
Sur les passoires thermiques, je pense qu'on en parlera.
On a organisé une pénurie de l'offre. Donc au bout d'un moment, les prix vont tenir par l'offre. Mais pour revenir sur le taux de crédit, on ferme une parenthèse qu'on avait ouverte après la crise des subprimes, grosso modo, où on s'était habitué à avoir des taux très très bas, voire des taux négatifs, et même des taux réels négatifs. Ça y est, on a fermé cette parenthèse. On est dans un autre cycle. Le coût de l'argent n'est pas excessif, 2% c'est pas excessif, on a connu des taux d'intérêt à 10, 14 ou 15%, ça. Donc au bout d'un moment, revenir au new normal. Et puis, je dois dire aussi que le crédit immobilier reste un outil de conquête de clientèle pour les banques. Donc, visiblement, mutualistes n'ont pas besoin de nouveaux clients. Donc,
certaines ont surtout fait leurs chiffres depuis. En fait, peut-être. Le premier trimestre a été
vont se servir du crédit immobilier comme conquête de clients. Et effectivement, quand on choisit ses clients, on essaie de choisir les meilleurs clients, ce qui veut dire qu'on va pénaliser les primo-accédants et les dossiers les plus fragiles. Et on va continuer d'accroître ces fractures qui, quand même, divisent un tout petit peu ce pays.
Alors pour prouver que moi je suis pas pessimiste, il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Il y a des solutions. Aujourd'hui, les banques sont en train de réfléchir à ils réintroduisent par exemple les taux variables.
On en reparlera demain.
Des taux variables donc qui permettent d'emprunter avec un demi point de différence. C'est quand même assez important par rapport à des taux fixes et qui sont capés.
Il y avait toujours eu sur le marché français des taux variables.
Ah non, mais 0,5% de l'ensemble des crédits.
Oui. Et ça avait été complètement arasé par période. Depuis une dizaine d'années de crédit à taux
variable. Parce qu'après un taux fixe, vous pouvez le renégocier. Donc, grosso modo, ceux qui avaient négocié à 3% ou 5% ont pu le renégocier à 2%. Donc, vous savez,
si on prenait
2%
et que ça rebaisse.
Donc, c'est le retour du taux variable.
Donc, le retour du taux variable, ça peut être.
Capé en plus, parce que c'est pas en France.
Plus 1, plus 2.
Oui, exactement. Donc, ça peut être une solution. Pour rester pessimiste.
Parce que souvent, quand on démarre son crédit, le taux variable, il est plus bas que le taux fixe. Avec cette risque d'augmentation, avec ce risque pardon d'augmentation dans le temps qui vient.
Oui, aujourd'hui le différentiel c'est 0,5 points, c'est-à-dire qu'on annule une partie de la hausse qu'on a constatée depuis un an.
Mais on en parlera demain. Mais effectivement, c'est une manière de passer le crédit malgré le taux d'usure. Et en plus, il y a des petites on va essayer de décortiquer les petites stratégies. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout votre crédit à taux variable. Vous pouvez faire une partie à taux variable, une partie à taux fixe. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez... Je vous rappelle que le crédit, en gros, vous le gardez 8-9 ans. Et puis après, soit vous rachetez, soit vous renégociez en fonction. Et donc, du coup, vous commencez par les taux bas. Et puis, au moment où vous passez sur le taux fixe, vous partez. Enfin, voilà, il y a toujours des petites solutions comme ça, des petites alternatives pour essayer...
Je ne veux pas faire le vieux schnock, mais j'ai l'impression qu'en fait, on revient à... Ouais, on ferme la parenthèse, vous aviez raison. On revient finalement à une structure de marché et à des propositions
plus
commerciales qu'on a connues
pour de 2004-2005, en fait.
Le monde d'après, on revient en arrière.
Dans les années 2000.
Avec des budgets peut-être un peu moins contraints pour les emprunteurs à l'époque.
Est-ce que il y avait le débat sur les prix, mais je veux dire, meilleurs agents, là, ils nous ont un peu dit... Ce qui se préparait ou enfin ce qui pouvait se profiler devant nous, qu'est-ce qu'on en dit justement?
C'est un petit peu le jeu de la rentrée, le grand jeu des devinettes. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? À combien vous sentez le...
D'accord, c'est du doigt mouillé.
Le mètre carré.
Non, ils sont quand même un peu plus sérieux chez Meilleurs Agents que doigt mouillé.
Ils ont justement le meilleur instrument de prévision sur le marché. Et généralement, on l'a vu au cours des années précédentes. Ils se sont rarement trompés. Et là, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ils nous annoncent quelque chose qui ne va pas vous étonner, mais qui est la poursuite de ce qu'on a constaté au moment du Covid. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on s'est dit, voilà, le Covid, c'est une parenthèse, et on nous raconte des histoires, il y a toute une story avec tous ces gens qui quittent les villes pour aller à la campagne, ce grand mouvement qu'on... on s'était dit, bon, bah, une fois qu'on serait revenu à la normale, alors est-ce qu'on est revenu à la normale, je ne sais pas, mais en tout cas, une fois que le Covid serait terminé, qu'on aurait passé ces histoires de confinement, on sera revenu à quelque chose de tout à fait normal, avec les gens qui restent, etc. Et on constate que non. Et on constate que non, et qu'il y a une nouvelle hiérarchie qui est en train de se construire avec une très grande ville qui perd des habitants et où le marché, aujourd'hui on le constate, il y a eu des chiffres, notamment des notaires hier, qui sont assez révélateurs. 42 000 transactions sur Paris. Donc on pourrait penser que c'est vachement bien, parce que c'est un marché très actif, parce que c'est plus de 40 000 transactions, c'est quelque chose qu'on n'a pas atteint depuis quelques années. Là, 42 500 transactions, ça veut dire que c'est un marché très agité, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des vendeurs qui sont des familles, et en face, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui rentrent dans Paris pour acheter. Alors on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est, vous savez, le lingot d'or de l'immobilier. On garde son truc à Paris, et
valeur refuge.
Valeur refuge, c'est aussi peut-être pour remettre sur le marché, mais en location meublée avec d'autres types de locations.
Après, il y a le retour des étrangers aussi.
Et il y a le retour des étrangers.
Et enfin, bref, la flambée d'immobilier de luxe.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la population est en train de continuer à quitter Paris. Les prévisions de meilleurs agents sur Paris, c'est moins 3% pour...
dans les 12 mois qui viennent, quand même.
Pour les 12 mois qui viennent, c'est quand même... Et un retour aux 10 000 euros du mètre carré. Donc, intéressant. Derrière tout ça, se dessine une sorte de hiérarchie, une nouvelle hiérarchie, avec donc Paris qui est plutôt sur une pente descendante, les très grandes villes qui souffrent, avec des toutes petites hausses, des hausses de 1, de 0. Quand on prend toutes les grandes villes, il y a des exemples. Lille qui est passée de 6% l'an dernier à 0,7% cette année, et entre 0 et 1 l'an prochain. Nantes passée de 5,2% il y a un an, 2% cette année, et sans doute moins l'an prochain. Bordeaux, c'est l'ex-star hein, quand même, il y avait tout le monde en parlait. Elle tombe de 4,3% l'année dernière à 1, et sans doute à moins 1 l'an prochain. Il n'y a que deux exceptions. Il y a Marseille qui continue à gagner beaucoup de le prix du mètre carré continue à monter assez fortement, et Strasbourg qui bénéficie de la proximité toujours avec...
D'un mot juste, je rappelle que c'est des villes qui forcément bénéficient aussi, Marseille, Strasbourg, enfin c'est des villes qui bénéficient d'un effet rattrapage. Quand on parle de Nantes, de Bordeaux, de Paris, c'est des villes qui avaient énormément monté.
Exactement.
Donc il faut aussi prendre ça en compte.
Et alors, dernière chose, les villes moyennes se portent un peu mieux que les grandes villes, et les campagnes, elles ont des perspectives de hausse qui sont quand même assez importantes. Donc cette hiérarchie, elle est bien dessinée.
Allez, on marque une petite pause dans ces échanges du Club Immo. On revient après, on parlera notamment des zinzins qui regardent cet immobilier. Dans l'intervalle, on ira faire un détour sur le marché grâce à nos traders. Et puis, vous n'oubliez pas les replays qui vous permettent de nous retrouver à tout moment.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et à 10h30, ce sont deux traders qui vous ouvrent leurs écrans pour vous donner leur résistance, leurs canaux, leur support. Deux spécialistes en ligne avec nous, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Gilles,
bonjour.
Comment voyez-vous les choses se mettre en place? C'est vrai qu'il y a l'ombre quand même de la Banque Centrale Européenne qui plane un peu sur les marchés.
Effectivement, on est toujours dans l'attente donc de la diffusion des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. On a un consensus qui table de plus en plus sur un relèvement des taux de 75 points de base. Et donc, on a un CAC 40 qui reste sous pression. Les inquiétudes sont multiples. On a déjà la fermeture du gazoduc Nord Stream qui continue à peser sur un petit peu la fourniture d'énergie et notamment de gaz en Europe. On a le ralentissement constaté en Chine, on a les perspectives de récession aux États-Unis. Tout cela crée un climat de pression donc qui se ressent bien sur l'indice, et on continue à naviguer dans une dynamique globalement baissière. Actuellement, on a un range entre 6035 6137 points. La semaine dernière, je vous indiquais que en cas de cassure de la zone 6155 6137, on avait un objectif à 6000, on a fait 6009. Donc on était quasiment dans l'épaisseur du trait. Au niveau de mes algorithmes, on reste sur une pression qui est baissière avec une perspective de poursuite du mouvement qui pourrait atteindre la zone des 5880 points. On a un rebond technique qui pourrait apparaître en début de semaine prochaine. C'est en tout cas l'étude de probabilité que j'ai actuellement. Mais pour l'instant, d'un point de vue technique et sur l'évolution de l'indice, on n'a pas grand-chose. On le voit dès qu'on a des rebonds techniques. Ils sont nourris de peu de volume. Il y a peu de conviction. On redescend rapidement. On a toujours des volumes qui sont supérieurs sur les séances baissières que sur les séances haussières, excepté pour la séance de lundi. Mais les investisseurs américains étaient absents. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de signal qui pourrait nous donner un espoir de retournement de cette tendance. Donc, un CAC 40 qui reste baissier. Donc, dans l'attente de la Banque Centrale Européenne, on aura aussi la Banque Centrale d'Angleterre qui va s'exprimer à 11h. On a le Beige Book ce soir, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'espoir d'un éventuel retournement à la hausse sur l'indice parisien.
Voilà la vision proposée par Gilles Santacreux et Boursicoté.com. Jean-Louis Cussac chez Perceval, même question, comment sentez-vous les choses? Quels sont un petit peu les repères que vous placez pour nos auditeurs?
Alors comme les derniers jours, d'ailleurs ça fait la cinquième séance qu'on évolue entre les mêmes limites, l'idée de fond, si vous voulez, reste la même. C'est-à-dire pas de raison, alors beaucoup de raisons et de motifs divers et variés pour qu'il y ait une forte baisse, et vous voyez que le marché reste résilient, qu'il ne casse pas les 6000. Ce matin, il ouvre avec un gap à la baisse sur le futur, vous vous rendez compte? Et c'est un peu le stress qui est là, les gens se posent des questions, et derrière il prend 1,1%. Voilà, il enfonce des portes ouvertes. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On est à 400 millions d'échangés à cette heure-là. Normalement, on doit être à 650, hein, mais là, ça fait beaucoup de jours où on est à 400, parfois 350, etc. Donc, il n'y a pas de grande manœuvre. On est dans des phases d'attente, on est dans des phases de doute, de confusion. En fait, le contexte est très, très confus, avec beaucoup de signaux très négatifs sur la zone euro, beaucoup plus favorable sur la zone américaine. Moi, la récession, on la voit en Europe, mais pas vraiment aux États-Unis. Et d'ailleurs, on voit que l'euro-dollar en a pâti à plusieurs reprises. Mais là également, on a des rebonds de l'euro assez étonnants. Mais bon, intéressant, puisqu'on les exploite tous. Hein, on essaye de vendre sur des rebonds. Moi, ce matin, on a fait vendre encore, comme hier. Et on a eu derrière une forte baisse, 0,99. On a mis un peu bas, 0,9918, je crois. Et on est maintenant à 0,9915. On a fait même un peu plus. Donc, vous voyez, on a des opportunités d'entrée comme là. On a ce rebond technique. On rentre à la vente un petit peu. Alors ça, c'est de l'intraday. Après, si vous voulez, on reste avec une position, en effet, comme Gilles, avec une tendance baissière a prioriser. Et par contre, les 5800 et quelques, je les vois pas pour l'instant potentiellement. C'est ça l'idée forte, si vous voulez. C'est que comme on a une hyper méfiance, une volatilité implicite forte, etc. Il y a pas de raison. Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais si, la preuve en est que depuis 5 séances, alors qu'on pensait que ça allait dévisser, le marché a vraiment bien tenu. Donc le marché joue davantage à se faire peur qu'autre chose. On est loin des niveaux d'éloignement de la zone d'attraction baissière, si vous voulez. Il faudrait franchir les 6250 au minimum. On va dire qu'au-dessus de 6310-20, on pourrait passer neutre. Voilà, c'est on en est loin de ces niveaux-là. Et puis, il y a toujours des aujourd'hui, la victime, c'est Ubisoft. Bon, vous rendez compte, moins 13, elle a fait moins 14. Bon, c'est son côté spéculatif qui disparaît au moins temporairement et pour un bon bout de temps. Et puis les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie, le problème. C'est vraiment un très très grave problème avec beaucoup de sociétés, d'entreprises qui ont besoin de beaucoup d'énergie et qui sont obligées de freiner leur activité. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr, on attend la Banque Centrale Européenne avec 0,75 de hausse des taux. Et puis, je vous disais, copier-coller des jours précédents, on a un comportement beaucoup plus opportuniste que dans l'idée de monter une vraie stratégie de fonds. Donc on reste vendeur, ouais. On est prudent, bon. On n'est pas trop exposé, ça c'est sûr, il n'y a pas de quoi. Et on privilégie des ventes sur rebond avec des écarts à la baisse.
Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Gilles Santacreux, Boursicoté.com. On se retrouve tout à l'heure, Gilles, pour suivre cette séance du jour. Le marché parisien qui, pour le moment, perd 0,35%, 6082 points. L'eurodoll, 99,16.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bon.
La première réforme du quinquennat arrive aujourd'hui en Conseil des ministres, celle de l'assurance chômage. Que va faire le gouvernement ?
Deux choses très clairement. Une qui n'est pas dite et l'autre qui est parfaitement exprimée. La première qui n'est pas dite, c'est achever la nationalisation du pilotage de l'UNEDIC par l'État. C'est la nouvelle petite mort du paritarisme. Ça, c'est pas assumé, mais on voit bien comment les choses s'écrivent depuis maintenant 5 ans. Et le deuxième élément de réforme, alors là, qui est parfaitement assumé, faire varier les paramètres de l'assurance chômage en fonction de la météo de l'emploi. Ça va bien ? Eh bien, l'assurance est moins protectrice. Ça va mal ? L'assurance protège davantage. Il y a trois objectifs. Le principal, c'est d'accéder au fameux plein emploi en 2027. On va considérer que si on fait du 5% en France par rapport à notre historique, c'est du plein emploi. Ensuite, essayer de répondre au problème de pénurie de main-d'œuvre. Les économistes n'ont plus d'explication pourquoi 6 à 7 entreprises sur 10, leur premier problème numéro 1, c'est trouver des gens. Il y avait le DRH de Système U qui était interrogé dans le Figaro ce matin. Il dit, il y a 10 ans, on croulait sous les CV, on n'en a pas un aujourd'hui. Et chez Système U, on ne recherche pas que des bacs plus 5. Et puis, troisième élément, faire sans doute un peu d'économie. N'oubliez pas quand même que avec Covid, depuis 3 ans, la dette a totalement explosé de l'assurance chômage. On est au-delà de 60 milliards d'euros de dette. Bon, bien sûr, c'est une dette qui est garantie par l'État. D'où d'ailleurs le fait que l'État pilote, il y a une forme de cohérence. Et alors là, le gouvernement veut avancer seul, on s'en rend bien compte. Le texte de loi cherche à ce qu'il ait les pleins pouvoirs pour agir par décret. Et d'ailleurs, tous les partenaires sociaux refusent de négocier, même le MEDEF. Et là où je comprends la stratégie politique, c'est qu'on met de côté la réforme des retraites qui mettra tout le monde dans la rue, et on fait la réforme de l'assurance chômage. C'est quand même une poire pour la soif qu'on envoie aux Européens en termes de réforme structurelle. Il y avait une enquête dans les Échos et Lab publiée le 8 août qui indiquait que 6 Français sur 10 étaient pour cette réforme. Vous êtes sûr qu'avec cette réforme, vous n'aurez personne sur le trottoir.
Est-ce qu'on a quelques détails de ce qui pourrait changer dans le fonctionnement de l'UNEDIC, justement, grâce à cette réforme ?
On va rendre hommage à Corinne Morisseau de BFM Business, qui a apporté des infos ce matin. Donc, première info, c'est que on pourrait durcir encore les conditions d'accès à l'assurance chômage. Vous savez, on est passé à 6 mois de travail sur les 24 derniers mois pour être éligible à l'assurance chômage. Et quand la météo est bonne, ça pourrait aller à 7 mois ou 8 mois. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il pourrait y avoir une modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la météo, toujours pareil. Donc aujourd'hui, c'est 24 mois maximum. Quand vous avez 53 ans, vous passez à 30 mois d'indemnisation. Et au-delà de, il y a 55 ans et plus, 36 mois. Aucun pays au monde n'indemnise aussi longtemps le chômage. Ce serait la deuxième grande piste de réforme. Il y en a une qui a été écartée. Elle était encore en pointillé hier, mais Olivier Dussopt, dans un entretien à France Inter, je crois, l'a écartée. On ne modulera pas les indemnités en fonction des régions. On se disait, c'est plutôt de trouver un boulot dans le Hauts-de-France qu'en Île-de-France. On pourrait avoir un système plus protecteur dans le Hauts-de-France qu'en Île-de-France. Ça risquait en plus de poser un problème de constitutionnalité avec des phénomènes de rupture d'égalité de traitement. Et puis alors, il y a, semble-t-il, une piste qui est aussi écartée. Mais là, c'est encore en pointillé. La dégressivité ou pas du montant des indemnités, normalement, il ne devrait pas y avoir de dégressivité du montant des indemnités.
Vous nous avez parlé plusieurs fois de la météo de l'emploi. On fait comment pour décider de la couleur du nuage?
Alors, il pourrait y avoir une petite astuce encore, ne pas totalement écarter les partenaires sociaux et les introduire dans une sorte de comité d'experts. Il faut reconnaître que ceux qui gèrent l'assurance chômage chez les partenaires sociaux sont des experts. Et donc, avoir un comité d'experts qui rendra un avis pour dire à quel moment le baromètre est du bon côté. Après ce comité d'experts, il y aura besoin d'avoir des critères qu'il observe. Alors, les critères, quels seront les critères? Temps de trimestre consécutif de recul du taux de chômage, par exemple. On a le chiffre trimestriel de l'INSEE régulièrement. Je sais pas, on peut dire qu'au bout de 3 trimestres ou 4 trimestres, j'en sais rien. Ou alors, une dynamique de création d'emploi très forte. Il y a du travail, le marché de l'emploi va bien. Ou peut-être aussi cette histoire de pénurie de main-d'œuvre. Phénomène de pénurie de manœuvre inédit, ça veut dire a priori que l'emploi est dynamique, et là, ce serait des moments où le baromètre pencherait du côté du beau temps. Je ne pense pas que ça relève forcément du PIB en tant que tel qui est principalement l'indicateur d'activité qu'on regarde généralement.
Vous avez parlé de plein emploi, ça peut contribuer au plein emploi ?
C'est clairement une brique. Il n'y a aucun problème là-dessus et tous les experts du sujet, je pense à Stéphane Carcillo à l'OCDE, je pense à Bruno Coquet à l'OFCE, sont unanimes. On a confirmé l'efficacité d'un paramètre parmi tous ceux que j'ai pu vous citer, la durée d'indemnisation. Si vous réduisez la durée d'indemnisation en période de soleil, quand la météo est bonne, vous avez un effet bénéfique. Ça s'est vu au Canada, ça s'est vu aux États-Unis. Mais on est en France, on a des particularités. Parce que certes, on se dit, ah bon, on a fait 1 million d'emplois en 5 ans. Et si on a 1 million supplémentaires qui arrivent dans les 5 années qui viennent, on a le plein emploi. Sauf que le million, là, qu'on a réussi à réaliser, le deuxième million est beaucoup plus compliqué. Parce que là, vous rentrez dans le dur du chômage structurel, des gens qui sont, pour la plupart d'entre eux, non qualifiés. Et donc, le fait de rendre employable la population active encore au chômage est au moins aussi importante et stratégique qu'une éventuelle réforme de l'assurance chômage. Donc non, à elle seule, elle ne permet pas de revenir au plein emploi.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché, moins 0,38 pour le CAC.
Votre rendez-vous avec Otari. Solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Immo.
Retour autour de la table du Club Immo avec Marie-Cœur de Roy, Gaël Thomas pour Business Immo, Eric Tréguier pour Challenge. Gaël, on a dit un petit mot des zinzins, on a dit un petit mot de l'inflation, on a dit un petit mot du marché. Et ces zinzins, comment voient-ils les choses dans cette période de hausse de prix au regard de ce marché immobilier ?
Ce qu'ils regardent très clairement, c'est les valorisations à venir, et elles dépendent vraiment du taux d'intérêt et du coût de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur le marché ? C'est que la prime de risque du bureau prime, grosso modo, on compare le taux de capitalisation des meilleurs bureaux, là où il y a le moins de risque possible, donc c'est le bureau du quartier d'affaires central des affaires de Paris, avec l'OAT 10 ans. Cette différence, cette prime de risque, ce spread, il était de 300 points de base ces dernières années. Il a été divisé par 3 avec la hausse mécanique des taux, donc il n'est plus que de 100 points de base. Donc en fait, ils ne regardent que ce différentiel. Donc aujourd'hui, il y a 2 solutions. Soit je retire mon dossier, mon offre, je retire soit de la vente, soit de l'achat, parce que j'attends. Je suis dans une forme d'hésitation sur l'évolution des valeurs. Soit, quand je suis acheteur, je propose une baisse de prix. Les vendeurs ne sont pas tout à fait, pas tout à fait en phase. Pour un institutionnel, il y a une chose qui est mécanique, c'est qu'il ne faut pas vendre en dessous de la valeur d'expertise. Donc, au bout d'un moment, le marché il se tient un petit peu comme ça, notamment en France. En Angleterre, vous prenez la paume. Vous y allez et puis vous vous dites, voilà, c'est la fin de cycle, les prix baissent, vous prenez la paume. En France, on a plutôt tendance à attendre. Donc, ils sont plutôt dans l'expectative. Ensuite, il faut regarder par rapport aux autres marchés européens. L'avantage du marché parisien, c'est sa centralité, c'est le fait que l'économie française n'est pas assise sur un seul secteur d'activité. Il y a quand même plusieurs secteurs d'activité. Il est aussi le fait qu'on dépense qu'on ne dépend pas totalement du l'approvisionnement du gaz russe. On voit bien que l'inflation des prix énergétiques est plutôt contrôlée en France. Regardez ce qui se passe en Angleterre et à Londres, où c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de garde-fous. Et la question est de savoir si finalement l'immobilier reste la valeur refuge, s'il faut en profiter, parce qu'on a toujours dit que l'immobilier, pour un investisseur, c'était un hedge par rapport à l'inflation. Grosso modo, vous avez une indexation de vos loyers, et l'inflation, finalement, c'est votre client qui la paye. Les choses se compliquent un tout petit peu, parce que autant le client il est prêt à payer pour être dans l'hypercentre de Paris, dans des bureaux modernes, autant il traîne un tout petit peu des pieds quand il s'agit d'aller en périphérie dans des immeubles qui ne sont pas tout à fait labellisables, qui ne sont pas tout à fait verts, qui ne sont pas très bien desservis. Donc on voit bien qu'il y a quand même l'emplacement va redevenir clé dans l'immobilier pour ceux qui l'avaient oublié.
Des zinzins qui regardent aussi le résidentiel ?
Ben oui. Pour suivre ce que dit Gaël, c'est vrai que on a toujours le choix quand on est un investisseur. Soit on achète de l'obligation, soit on achète un autre actif. Et cet autre actif, il va être regardé par rapport à l'obligation donc l'OAT, ce qu'on appelle les taux d'intérêt, qui est en fait la mesure de toute chose. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire la hausse des taux de la BCE et des grandes banques centrales, la valeur d'une obligation qu'on a souscrite il y a un an, eh bien, elle a baissé, puisqu'elle ne vous rapporte pas beaucoup, alors que les nouvelles vous rapportent beaucoup plus. C'est exactement la même réflexion, le même raisonnement que doivent tenir ceux qui investissent dans l'immobilier. Ils doivent se poser la question, est-ce que mon rendement est important? Est-ce que mon rendement m'offre une protection contre une hausse future des taux d'intérêt? Et derrière, est-ce que mon rendement, il est solide? C'est-à-dire que je vais l'avoir pendant plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que ces investisseurs, ils viennent sur l'immobilier parce que justement, ça apporte ce surcroît de rendement encore pour le moment. Mm-hmm. Et le petit problème aujourd'hui des bureaux, c'est que la visibilité, elle est de plus en plus faible. Parce qu'on voit qu'il y a une récession qui est en train de venir, parce que les entreprises elles-mêmes se posent des questions sur leurs bureaux. Est-ce que je reste? Est-ce que je diminue? Les grandes mutations, l'hybridation du travail fait que...
On a besoin de moins de mètres carrés.
On a besoin de moins de mètres carrés. Et on se pose cette question-là. Aujourd'hui, donc, en face de ça, il y a le logement. Le logement, c'est du rendement. Alors, pas autant de rendement que le bureau, mais du rendement. Et derrière ça, une visibilité qui est pratiquement infinie.
C'est des cash flows longs et pérennes.
Exactement. Il n'y a pas de risque.
Il y a très peu de risques.
Oui, et derrière ça, il faut savoir gérer. C'est le seul petit problème. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de plus en plus de zinzins viennent sur ce marché du logement. Et les derniers chiffres sont quand même importants. 3,7 milliards au premier semestre ont été investis juste dans le logement. Ouais. Mais on voit bien, avec une inflexion particulière, vers... tout ce qui est de l'immobilier géré. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'embêter à gérer des locataires. C'est un autre métier que celui d'être financier. Et on voit bien qu'il y a plus de trois quarts des investissements des zinzins qui se font en VFA, donc sur des projets qui ne sont pas encore existants, et plutôt vers de l'immobilier géré. C'est les deux aspects qui leur semblent importants.
Alors moi, je mettrais un petit bémol quand même, effectivement. Bah non, c'est pas ça, mais c'est qu'effectivement, premier semestre, encore 3,7, effectivement, c'est beaucoup sur le résidentiel, surtout par rapport à des années où, effectivement, ils avaient complètement déserté le résidentiel. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, le bureau, c'était plus rentable, c'était moins... casse-pieds à gérer, et donc forcément ils se disaient, oh là, je vais aller où ça me rapporte le plus. Il y avait plus de risques, mais il y avait plus de rendement. Et qu'est-ce qu'on a vu? À chaque crise, c'est la même histoire, et a fortiori pendant la crise Covid, et c'est ce que disait très bien Eric, c'est-à-dire que le logement, on aura toujours besoin d'avoir un toit sur notre tête. Le bureau, pas sûr. Le commerce, quand on est confiné, pas sûr. Alors sur quoi je vais investir? Sur ce qu'il y a de plus sécurisé. Alors c'est peut-être pas très rentable, mais c'est safe. Sauf que là, effectivement, 3,7 sur le premier semestre, mais 560 millions seulement sur le deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, oui, évidemment, il y a le contexte taux, le contexte marché, etc. C'est juste un petit coup de mou. Parallèlement, l'investissement des institutionnels dans le bureau, lui, il repart en force, justement. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne chose qu'ils reviennent sur le résidentiel. Mais le fait est qu'effectivement, ça montrait quand même leur aversion au risque. Ouais. Et là, le fait qu'ils reviennent massivement sur le bureau et un petit peu moins sur le résidentiel, est-ce que c'est pas aussi un signe d'optimisme? Parce qu'on va essayer d'être optimiste et de se dire, est-ce que finalement les grands institutionnels sont pas de nouveau en face de se dire, bon, ok, on a traversé la crise, ça veut pas dire qu'ils vont redéserter le résidentiel, mais est-ce qu'ils sont pas de nouveau en train de se dire, croire dans le bureau? Parce que oui, le bureau, on n'en fera pas comme avant, peut-être moins de mètres carrés, mais ce sera toujours là, le bureau, malgré tout, on le voit bien. Oui, il y a le télétravail, mais le bureau sera toujours là. Donc moi, c'est mon côté optimiste à me dire, il y a quand même un petit coup de mou sur le résidentiel. Je vous rappelle, on était à quasiment 7,5 milliards investis en 2021, on pressentait que 2022 serait meilleur, peut-être pas finalement. Donc voilà, mais je trouve que c'est plutôt des signes encourageants, tant qu'ils redésertent pas le résidentiel.
Quand on interroge les assureurs, ils vous disent qu'ils trouvent pas en fait de logements à acheter, parce qu'ils achètent en VFA, c'est-à-dire des
logements qui sont pas construits. C'est le problème de tout le monde, les institutionnels comme les particuliers.
Aujourd'hui, le plus grand concurrent de quelqu'un qui cherche un toit, c'est un zinzin. qui vient lui rafler un immeuble entier qui disparaît du marché.
Et le promoteur lui-même est bien content de se débarrasser d'un immeuble entier.
La baisse en volume s'explique par trois facteurs. Effectivement, il y a un problème d'accès à l'offre. Donc, et aujourd'hui, tant que les maires ne signent pas les permis de construire, je suis désolé, vous ne pouvez rien acheter.
Non, ne soyez pas désolé, moi je suis tellement d'accord.
Donc, au bout d'un moment, il y a un problème d'accès à l'offre. Il y a un effet statistique aussi, quand même, sur les 3,7 milliards, il y a eu une transaction à 2,4 milliards, un portefeuille. Donc, ce n'est pas tous les 15 jours qu'on a des portefeuilles comme ça. Donc,
bien sûr.
Il y a ça qui compte un petit peu. Et puis, il y a un autre truc qu'il faudra surveiller quand même un tout petit peu plus long terme, c'est quand la bourse baisse, l'allocation immobilière des institutionnels remonte automatiquement. Et l'immobilier, ça reste un axe d'investissement, de diversification pour un institutionnel. Et grosso modo, on se dit, c'est entre 7 et 10% de mon allocation d'actifs, je le mets sur des actifs réels, notamment sur l'immobilier. Bah, si vous prenez un petit coup de mou à la bourse, mathématiquement, votre allocation immobilière, elle remonte. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à acheter de l'immobilier, notamment du bureau. Et le bureau, ça représente à peu près la moitié du portefeuille immobilier. D'accord. Donc je suis un peu trop chargé en bureau. Je trouve pas de résidentiel. Vous savez quoi? J'attends que ça se passe.
Bien sûr.
Bon, donc il faut du neuf.
Il faut construire encore, dingue.
Mais il y a de la demande.
Bon allez, il nous reste 2 minutes 50.
47.
Un mot des dark stores.
Oui, c'est la polémique de l'été. Il y a le gouvernement qui a essayé de passer un décret le 13 août. Bon, visiblement, tout le monde n'était pas en vacances, en tout cas pas Emmanuel Grégoire, qui agitait un petit peu ses camarades et quelques maires, pour savoir si un dark store, c'est un magasin, un commerce, ou si c'est un entrepôt. Bon, a priori, ils se sont réunis hier, c'est un entrepôt. Donc, ce qui veut dire que tous les anciens magasins, notamment qui étaient pris par les enseignes de Dark Store ou de Dark Kitchen, et qui n'ont pas fait le changement de destination, parce qu'il faut faire un changement de destination, ils sont dans l'illégalité, donc ils doivent fermer et rendre les clés. Voilà, il y avait une crainte des maires de voir des centres-villes avec des rideaux baissés. Et donc aujourd'hui on a tranché, c'est de la logistique. Alors maintenant se pose un autre problème, ça va être de la logistique du dernier kilomètre, parce qu'il y a toujours de la demande. On estime qu'il y a entre 100 et 150 dark stores, je crois, à Paris et en petite couronne. La Pure avait fait une étude là-dessus. Donc qu'est-ce que ça va devenir? On va pas totalement supprimer les dark stores. Mm-hmm. Si ça devient de la logistique du dernier kilomètre, il va falloir l'organiser, le prendre dans les PLU. Il y a déjà quelques propositions qui commencent à émerger. On se dit pourquoi pas en sous-sol, pourquoi pas dans des parkings. Moi, je pense simplement aux employés dont on dit les dark stores, c'est juste les conditions de travail sont horribles. Vous êtes sur le trottoir. Et là, on commence à avoir des propositions. On propose de les mettre
à la cave. Ouais, c'est ça, c'est mieux.
Ça soit une bonne nouvelle pour eux.
Ils seront chauds.
Ouais.
Pas forcément.
C'est pas la lumière. Hein.
Bon, allez, on termine par tout autre chose. Un château.
Ah oui, bah voyons.
Châtelain.
Qu'est-ce un que châtelain. T'as acheté
et un châtelain assez célèbre, hein, puisqu'il s'agit de Monsieur Daniel Kretinsky, qui a 47 ans. C'est offert, non pas une Rolex, mais un petit château. Alors on l'appelle.
Ça fait 7 ans qu'il l'a, non?
Voilà. Il s'est acheté ça, paraît-il, selon le magazine de l'agence Bloomberg, 43 millions. 42 millions, pardon, et il a acheté ça à une famille qui détenait ça depuis un siècle, mais qui ne pouvait plus faire face, bien sûr, à l'entretien. Et comme M. Kretinsky, c'est quand même la cinquième fortune tchèque, il est estimé à plus de 5 milliards de dollars, et il détient en France pas mal de choses, il détient une partie de casino, une partie de Darty, il est actionnaire du Monde, il possède aussi pas mal de journaux, une quinzaine de journaux, c'est quand même un homme très entreprenant, ce château, il va pas l'occuper vraiment.
Mais c'est pas pour lui, hein.
Non, il se
Airbnb.
Il compte voilà le transformer en un petit logis pour accueillir 2-3 personnes. Un hôtel de luxe qui il y a 4 ans de travaux, plusieurs millions bien sûr aussi de travaux qui sont prévus. C'est très joli tel que c'est aujourd'hui, on peut imaginer que ça sera encore plus joli demain, mais la petite différence c'est que jusqu'à présent on pouvait le visiter certains jours puisque c'était un château et il était ouvert.
Maintenant il faudra payer.
Si ça devient un hôtel, il faudra payer, voir combien vaut la nuit.
Il crée de l'emploi au moins.
Ouais. Et tout est classé de toute façon. Donc,
tout est classé, bien sûr. Ouais.
Et puisqu'il y a aussi des jardins, et je crois qu'il veut faire des
Il y a des moustiques l'été. Hein.
De l'équitation, je crois, dans le jardin.
Il y a des moustiques parce qu'il y a des
projets équestres.
Il y a des plantes.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce Club Immo. Gaël Thomas donc pour Business Immo, Éric Tréguier Challenge et Marie-Cœur de Roy. Donc demain on parle.
On parle du retour des taux variables, vous allez voir.
Après, allez, ce sera la vie IMO dans la première demi-heure de l'émission. On se retrouve demain matin vers 10h15. Le CAC 40, lui, est en repli de 0,2%. N'oubliez pas non plus les replays où vous pouvez retrouver tout ou partie de l'émission sur notre site ou sur nos plateformes partenaires. A tout de suite.